France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Idée de discussion pour le pique-nique du week-end. Figurez-vous que des chercheurs du CNRS ont percé le mystère du son du robinet qui goûte. Et oui, voilà. Alors pénible, vous savez, la nuit, quand vous n'arrivez pas à dormir, ce n'est pas la goutte d'eau en elle-même en fait qui générerait ce bruit agaçant lorsqu'elle tombe à la surface du liquide, mais l'oscillation d'une petite bulle d'air créée lors de l'impact et entraînée sous la surface pour arriver à leur fin. Ces scientifiques ont utilisé un magnétophone et ont visionné à nombreuses reprises la goutte qui tombe au ralenti. Il paraît que depuis un siècle, la science s'interroge sur ce phénomène. En tout cas, la science avance et il était bon de le signaler. Voilà, merci à eux. Et eux, ils connaissent bien le ploc-ploc de l'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Amdam Mostafavi, bonsoir.
Bonsoir.
De Courrier International, également le journaliste européen Alexis Poulain, bonsoir.
Bonsoir.
Étienne Girard, bonsoir.
Bonsoir.
Marianne et Anne-Sophie Beauvais, bonsoir.
Vous
êtes directrice générale de l'association des anciens élèves de Sciences Po. Et ce soir, on parlera du cas Mélania Trump. On parlera également du glyphosate, hein, toujours aussi tendu. Marion Maréchal Le Pen ne laissera pas vos enfants tranquilles. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de votre premier débat. Alors, dans son prochain budget, l'Union européenne devra-t-elle prévoir une ligne pour l'achat en gros de crécelle? Bah oui, vous savez, cet instrument de musique constitué d'un moulinet faisant un bruit atroce. C'est avec cet objet que les lépreux et autres malades contagieux se signalaient au Moyen-Âge. On se pose cette question car on parle de nouveau de lèpre sur le vieux continent. Alors, pas de cette terrible maladie physique, mais plutôt de lèpre intellectuelle qui serait en train de contaminer toute l'Union européenne. Le docteur Macron est très inquiet et son diagnostic effectué hier est assez critique, Emmanuel Macron.
Beaucoup la détestent. Mais il la déteste depuis longtemps. Mais vous les voyez monter, comme une lèpre, un peu partout en Europe, dans des pays où nous pensions que c'était impossible de la voir réapparaître, et des amis voisins. Ils disent le pire, et nous nous y habituons. Ils font les pires provocations, et personne ne se scandalise de cela. On s'habitue à toutes les extrêmes, dans les pays qui depuis des années sont pourtant pro-européens comme nous. Et sur ce sujet, nos élites économiques, journalistiques, politiques ont une responsabilité immense.
Voilà, Emmanuel Macron hier à Quimper. Alexis Poulain, est-ce que le mot lèpre est bien choisi?
Non, il n'est pas bien choisi. Enfin, je crois qu'Emmanuel Macron confond plusieurs choses. C'est une lèpre raciste, xénophobe, qu'on voit monter un néofascisme et des mafias, en fait, qu'on a jamais voulu vraiment contrecarrer. Le nationalisme, c'est autre chose. Je pense qu'il y a un temps européen qui a changé. Emmanuel Macron est resté sur le grand récit des pères fondateurs, l'Europe de la paix, l'Europe des marchés ouverts, etc. Je pense que depuis la crise migratoire, on voit qu'il ne fait que monter, on en parlera tout à l'heure, depuis la crise grecque aussi, les peuples européens sont en train de se poser la question de cette construction européenne, de dire bien sûr l'Europe on l'aime, bien sûr l'Europe on l'aime, mais est-ce qu'on peut tomber amoureux de l'Union technocratique européenne? Non, ça, bien sûr, c'est un des gros problèmes. Et puis, pourquoi continuer quand ça va si mal ou pas très bien? C'est le cas de l'Italie, enfin un pays qui a été laissé seul, où on n'a pas voulu faire un travail de fond qui est justement d'écouter les problèmes des gens. Quand maintenant Comte dit qu'il est populiste, n'oublions pas qu'Emmanuel Macron pendant la campagne a dit qu'il était populiste également. Donc oui, il va falloir ce moment populiste européen et bien rentrer dedans et faire en sorte qu'on en sorte grandi en continuant la construction. Et ça, c'est pas évident.
On n'a pas l'impression que justement ils veulent construire.
Non, mais là, on peut pas continuer à avoir cette légende on est pour ou contre l'Europe. Tout le monde est européen en Europe.
Anne-Sophie Beauvais, pour vous, ce mot, justement, il est bien choisi. Est-ce que finalement, aujourd'hui, Emmanuel Macron tire la sonnette d'alarme un peu tardivement, peut-être?
Oui, enfin, les mots sont importants, c'est vrai. Mais moi, ce que je retiens de cette séquence, c'est que Emmanuel Macron, jusqu'à présent, avait mis quand même beaucoup d'énergie pour défendre, j'allais dire, des sujets très économiques sur l'Europe. Il a d'ailleurs là eu un succès sur l'affaire du budget de la zone euro. Mais Emmanuel Macron a toujours une vision assez économique, en fait, des problèmes. C'est valable en France et c'est valable aussi au niveau de l'Europe. Budget de la zone euro, ministre des Finances européens. J'allais dire, il était un peu temps de se saisir de cette question, de la poussée des populistes en Europe. Donc, je suis contente de l'entendre et puis de l'entendre avec une énergie politique sur ce thème-là, parce que les prochaines élections européennes, elles vont se faire sur ce thème.
Oui.
Elles elles vont pas se faire vraiment sur les questions économiques. Certes, il faut une intégration économique et politique plus importante en Europe, mais ce qui va occuper les discussions, et il faut pas laisser ce thème-là à ceux qui justement vont avoir, j'allais dire, la façon la plus populiste d'envisager ces thèmes-là. Donc c'est bien qu'Emmanuel Macron se positionne
Alexis
là-dessus.
Poulain. Moi, justement, certes, mais c'est la caricature de ce débat, moi qui me fait peur pour 2019, de dire vous avez d'un côté les méchants nationalistes et de l'autre côté les gentils européistes. C'est faux. Les nationalistes, et en Italie, ils n'ont pas remis en cause la construction européenne ni l'euro. Par contre, ils remettent en cause les règles du jeu en disant, écoutez, si l'euro c'est le marque allemand et qu'on continue à faire en sorte que certaines économies aillent bien aux dépens des autres, regardez la Grèce, 300 milliards qui vont aux banques, des milliers de gens qui se retrouvent à la rue, un pays qui se retrouve sur les genoux, qui n'est toujours pas souverain et qui se retrouve à pouvoir se réendetter auprès de ses bourreaux passés. Les financiers qui ont construit l'Europe depuis les années 70 là, et qui continuent ont fait cette lèpre. Il faut le voir, ce problème-là, à un moment, le populisme, il existe parce qu'il y a un mécontentement réel de dire ça ne va pas dans le sens qu'on m'avait promis. C'est-à-dire que les classes moyennes ne s'enrichissent pas, elles ont peur du déclassement.
Alors, juste, on va prendre une petite respiration parce que vous savez qu'en ce moment, on suit également la Coupe du Monde qui se déroule en Russie, voilà, chez Vladimir Poutine. On en parle beaucoup aussi aux informés de France Info. Et sur place, on va rejoindre Claude Brouillot. Bonsoir pour le match Serbie-Suisse que vous suivez pour nous. Il y a déjà une ouverture du score. Hein.
Oui, absolument. La Serbie, dès la cinquième minute de jeu, qui a ouvert le score face à la Suisse 1-0. Un but de l'avant-centre Mitrovic, assez étonnant d'ailleurs, puisque 30 secondes plus tôt, tête de Mitrovic, ce même Mitrovic, qui est arrêté par le gardien suisse Sommer. Et dans la minute qui a suivi, même occasion, et cette fois Mitrovic qui parvient à tromper le gardien suisse de la tête. Donc 1-0 pour la Serbie face à la Suisse après 5 minutes de jeu.
Merci beaucoup Claude Brouillot. On aura peut-être l'occasion de vous retrouver s'il y a un but. En tout cas, n'hésitez pas, vous savez, tout est ouvert chez nous. Allez, on va reparler de l'Europe dans un instant. L'info à 20h10, Mélodie Pépin.
Entre les États-Unis et l'Union européenne, on se rend coup pour coup. L'escalade des sanctions commerciales. Donald Trump menace ce soir de taxer les voitures européennes à hauteur de 20% si les Européens ne lèvent pas les barrières douanières. 180 produits américains taxés depuis aujourd'hui. La riposte européenne aux premières taxes américaines imposées sur l'acier et l'aluminium. Un enfant de 2 ans giflé par un prêtre dimanche dernier en Seine-et-Marne lors d'un baptême. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. L'homme de 89 ans a perdu son sang-froid selon le diocèse de Meaux. Il voulait faire taire l'enfant en pleurs. Le diocèse a suspendu le prêtre de toute célébration de baptême et de mariage. 34e jour de grève à la SNCF demain, avec un trafic davantage perturbé en région, seulement la moitié des TER et des intercités en circulation. En Ile-de-France, comptez 3 transiliens sur 5, un trafic plus fluide pour les TGV, 9 trains sur 10 comme aujourd'hui. Au Nicaragua, au moins 212 morts en 2 mois, c'est le bilan des répressions des manifestations antigouvernementales selon la Commission des droits de l'homme. Plus de 1300 blessés. Les manifestants accusent le président Ortega et son épouse de confisquer le pouvoir. Et puis au mondial de football, le Nigeria s'est imposé face à l'Islande 2-0, ce qui laisse une chance encore à l'Argentine dans ce groupe D. Le Costa Rica, en revanche, éliminé, battu par le Brésil 2-0.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, c'était le mot hier d'Emmanuel Macron, la lèpre nationaliste, voire populiste. C'était un discours pour dénoncer l'attitude de certains pays européens. Étienne Gérard, il y a une chose qui est assez étonnante quand même dans son discours, c'est que Emmanuel Macron a dénoncé la montée des nationalistes tout en revendiquant de ne pouvoir accueillir tout le monde et refuse, je cite toujours Emmanuel Macron, les donneurs de leçons qui ne voient pas les fractures de la société française. C'est pas un peu contradictoire?
Bah écoutez, vous mettez exactement le doigt où ça fait mal, très exactement. Il serait temps de joindre les actes à la parole. Il me semble que là, on nage en plein paradoxe dans ce discours et de la part d'Emmanuel Macron, puisqu'il a dénoncé les populismes, mais avec un mot qui provient dans l'imaginaire français précisément d'un populiste, puisque l'expression « lépreux », le seul qu'il a utilisé jusqu'à présent, c'était Jean-Marie Le Pen. Et c'était à propos des malades du sida.
Oui.
Donc, il me semble qu'il y a eu déjà une contradiction de forme à vouloir dénoncer un phénomène en utilisant un de ses ressorts. Et sur le fond, À l'évidence, depuis qu'il a été élu, Emmanuel Macron, il mène pas une politique au niveau européen particulièrement guidée par l'humanisme, et il mène pas particulièrement une politique guidée par une croyance dans un fédéralisme, une confiance mutuelle entre les pays d'Europe. Donc, oui, il y a un petit problème.
Alors, Anna Mostafavi, forcément, il y a eu une réponse, toujours du même, c'est-à-dire du ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, qui, lui, a répondu dans ces termes. Nous sommes peut-être des lépreux populistes, mais je tire les leçons de ceux qui ouvrent les portes, leurs propres ports, accueillir des milliers de migrants, et ensuite, on pourra parler, et il termine, il y a ceux qui parlent et ceux qui font, et il termine même ce post sur Facebook, bisous, avec un smiley, hein, voilà. Donc, ça, c'est Matteo Salvini. À chaque fois, donc, il a la même rhétorique, hein, ce ministre de l'Intérieur, mais en même temps, Emmanuel Macron ne réplique jamais à ça parce qu'il y a un fond de vérité.
Oui, ça me coûte un petit peu de le dire, mais Salvini n'a pas complètement tort, évidemment, puisque si les Italiens ont fermé leurs portes et leurs ports, c'est aussi pour dire qu'ils en ont marre d'être les seuls à la frontière, comme les pays de l'Est. Pourquoi ces pays sont devenus si populistes et anti-immigrants, entre guillemets? C'est aussi parce qu'ils sont seuls confrontés à devoir gérer le flux migratoire. Et en effet, l'Italie a accueilli beaucoup plus de migrants que la France et n'a pas les moyens de le faire. Donc, à ce moment-là, évidemment, il doit discuter avec les Italiens. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron veut faire l'Europe. Il n'arrête pas de nous dire qu'il veut faire l'Europe. Mais le problème, c'est que maintenant, il faut qu'il regarde avec qui il peut la faire. Ouais. Parce que s'il ne veut pas parler avec les Italiens, maintenant, c'est en effet des populistes qui gouvernent en Italie. Il ne va pas parler avec des Espagnols qui sont gouvernés par quelqu'un d'ultra minoritaire aujourd'hui, Pedro Sanchez. Mm-hmm. Il ne va pas le faire avec Theresa May, qui va sortir de l'Europe. Et il ne va pas le faire avec Angela Merkel, qui est elle-même en conflit avec son ministre de l'Intérieur, qui dénonce la politique de la porte ouverte. Donc, et il ne va pas le faire avec les pays de l'Est, qui ne veulent même plus entendre parler des pays de l'Ouest. Ouais. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'il mette un petit peu d'eau dans son vin s'il veut pouvoir construire l'Europe, cette Europe dont il rêve, avec quelqu'un.
Alors, Alexis Poulain, c'est vrai que dimanche, il y a un sommet qui aura lieu. Sur le sujet, à Bruxelles. Alors, les Italiens refusent déjà le texte, hein, qui, selon eux, n'irait pas assez loin. La Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie et la Pologne ont dit qu'ils n'iraient pas. Ça avance. Hein.
Ça avance super bien. C'est scandaleux de dire on va faire un sommet d'urgence sur un problème qui, il y a 10 ans, où on aurait pu des sommets.
Enfin, c'est une volonté de la Commission européenne, hein, c'est ça?
Oui, parce qu'ils préparent le sommet, évidemment, de la fin de semaine prochaine, où il y aura un sommet européen qui va être sans doute un fiasco, parce qu'évidemment, si on n'est pas foutu là, de s'organiser en disant on n'y va pas, il faut voir que l'axe, on en a parlé, Autriche, Allemagne, avec la CSU, le ministre de l'Intérieur Seehofer, Italie, et bien sûr Orban en Pologne, etc., est en train de devenir, d'une certaine façon, un axe majoritaire, en disant il va falloir écouter cette voix-là si on veut se mettre d'accord à 28. Et puis, il y a la peur aussi de dire que maintenant, la présidence tournante va revenir aux Autrichiens. Donc là, ça va forcément être eux qui vont hériter de ce dossier-là avant les élections européennes de 2019. Donc, ce thème-là de la migration, il est central pour l'avenir de l'Europe, il est central pour les élections de 2019, et il n'est pas réglé. Et c'est-à-dire, c'est une inconséquence vraiment, et des acteurs européens, c'est-à-dire de chaque État. Là, pour le coup, les nationalismes ont fait leur boulot. Personne n'a fait son boulot. La France n'a pas fait son boulot. L'Allemagne a fait ce qu'elle a pu, mais jusqu'à un certain point. Et l'Italie, bien sûr, ces pays-là se sont retrouvés seuls.
Étienne Gérard, justement, Anne-Sophie Beauvais en parlait à l'instant. Bien sûr, on pense aux élections européennes qui vont arriver. C'est dans moins d'un an. Forcément, ce thème, on imagine, sera au centre de la campagne. Peut-être qu'ils n'avaient pas imaginé comme ça, Emmanuel Macron, même les autres partis. Ça risque d'être plus difficile, non, quand on voit justement les attitudes des uns et des autres là.
Effectivement, ça risque et ça pourrait être plus difficile que prévu pour La République en Marche. Bon, faut être prudent parce que en un an, il peut se passer énormément de choses. Des thèmes peuvent émerger. Dans les sondages actuellement, on est un peu à front renversé puisque on sent que les Français sont extrêmement rétifs à toute immigration. Et pourtant, ils placent La République en Marche, qui a un discours plutôt conciliant, même si dans les textes de loi, c'est pas la même chose, largement tête des sondages. Donc voilà, faut être prudent. Mais effectivement, la dynamique en Europe est du côté des idées populistes et des idées peut-être un peu xénophobe, en effet. Et donc, ça pourrait être un appel d'air et ça pourrait être, pour Marine Le Pen, l'occasion de se refaire la cerise et donc de mener une campagne vigoureuse au niveau européen là-dessus.
Voilà, parce qu'en même temps, si on parle de populisme, mais ils sont tous différents. Hein. C'est vrai qu'il y a une différence quand même entre ce populiste et il faut faire attention à pas toujours les mêmes. Allez, justement, on va parler aussi un petit peu de populisme, même si, en fait, ce n'est plus de la politique. On ne sait plus trop, puisqu'après avoir triomphé aux États-Unis avec une longue tournée d'une date dans la banlieue de Washington, après avoir troqué son nom, Marion Maréchal Le Pen, par un nom nom de scène beaucoup plus discret, Marion Maréchal. Eh bien, aujourd'hui, la chica de la droite nationale était à Lyon pour inaugurer son école. Il ne manque que les pom-pom boys, en fait. L'Institut des sciences sociales, économiques et politiques. Tel est le nom, donc, désormais, et la priorité de Marion Maréchal, adepte de la métapolitique. Voilà, une école au diplôme non reconnue par l'État où l'on parlera marketing et donc sciences politiques. On ne connaît pas encore les professeurs, mais il y aurait 200 inscriptions pour y suivre les cours venus, on nous dit, de tous horizons. Un lieu d'enseignement qui n'a rien, mais strictement rien à voir avec une quelconque prise de position politique. Mais alors là, je ne sais pas où on va chercher ça. Marion Maréchal.
Ça n'est pas un projet politique et l'objectif de l'ICET n'est pas politique. Notre objectif à nous, c'est vraiment d'offrir une alternative, si vous voulez, éducative dans un monde du supérieur aujourd'hui français que nous estimons un peu sclérosé sur le plan intellectuel et dont les enseignements nous apparaissent insatisfaisants en ce qui concerne notamment les écoles en charge de la formation des élites françaises. À partir de là, l'école n'est pas un parti, elle n'est pas d'ailleurs à la botte d'un parti, elle n'a pas de programme politique, donc elle permet d'être un carrefour des intelligences.
Voilà, Marion Maréchal Le Pen ce matin à Lyon. Donc Anne-Sophie Beauvais, rien de politique du tout. On a vu, c'est juste l'enseignement supérieur qui est sclérosé, mais il n'y a rien de politique, non ?
Oui, et puis moi, je représente à peu près tout ce que Marion Maréchal souhaite balayer. Ces écoles qui, voilà. Je viens de Sciences Po, ces écoles qui forment les élites et qui les forment manifestement mal, puisqu'une jeune femme de 28 ans, avec beaucoup d'humilité, vient ouvrir son école et vient donc attraper un champ culturel qui, d'après elle, est vacant. Bah écoutez, je lui souhaite beaucoup de courage. Peut-être le faire, je le répète avec ce mot. Moi, ça me fascine de voir, si vous voulez, une jeune femme, pardonnez-moi, c'est une petite colère que j'exprime ce soir, mais je l'entends pas, une jeune femme de 28 ans, un processus de création d'école, un processus intellectuel, un processus de formation. C'est un beau projet de former les élites de notre pays. C'est l'avenir de former les jeunes. Et former les élites, c'est utile. Moi, je ne supporte pas ces discours qui consistent à dire que les élites sont d'abord tous une espèce de tout uniforme et qu'en plus, elles ne servent pas à grand-chose. Mais avoir 28 ans et arriver avec cette assurance... Et alors, ce n'est pas du tout questionné par les médias, je vous avouerai. Les médias s'emparent de ce personnage qui est Marion Maréchal, un personnage un peu fantasmé qui plane au-dessus de notre vie politique. Alors, ce que j'entends derrière le projet de Marion Maréchal, c'est assez simple. J'ai travaillé en politique, je sais très bien comment les politiques fonctionnent. Ils sont toujours à se demander quelle bonne idée... ils peuvent avoir pour exister, pour essayer de penser à l'étape d'après, à se dire comment je peux investir un terrain, comment on peut parler de moi. Eh bien, elle y arrive très très bien. Voilà.
Très bien. Eh bien, écoutez, on va continuer à en parler alors, puisque vous le proposez aussi, Sophie Beauvais. L'info à 20h20, Mélodie Pépin.
Autisme, retard mental ou de langage, entre 16 000 et 30 000 enfants pourraient avoir été atteints de ces troubles du comportement ces 50 dernières années à cause de la dépakine et ses dérivés, ce médicament prescrit aux mamans épileptiques. Cette étude de l'Agence du médicament et de l'assurance maladie révèle l'ampleur des dégâts. C'est 10 fois plus d'enfants victimes que les estimations communiquées jusqu'à présent et qui ne recensaient que les malformations congénitales graves provoquées par la dépakine. Le glyphosate est lui considéré comme un herbicide cancérigène. Le gouvernement veut des solutions concrètes pour s'en passer d'ici 3 ans. Les ministres de l'Agriculture et de l'Écologie ont lancé ce matin une task force, une plateforme de recherche qui réunit une quarantaine d'acteurs de la filière, chargés donc de réfléchir à des alternatives. La police de Marseille a démantelé le plus important réseau de trafic de stupéfiants de la ville. À la cité de la Castellane, dans les quartiers nord, 9 personnes écrouées, 200 kilos de cannabis et 9 kalachnikovs saisis. La fin de 8 années d'austérité pour la Grèce, une dette à nouveau allégée et la tutelle bientôt terminée. Des Grecs cependant sceptiques sur l'amélioration de leur quotidien à venir avec un habitant sur 5 au chômage et un tiers sous le seuil de pauvreté. Et puis dans quelques minutes à 20h30, les adieux des guignols de l'info sur Canal+. Après 30 ans d'émissions satiriques, les marionnettes livrent une dernière prestation puisqu'elles ne reviendront pas à la rentrée. L'occasion de retrouver des personnages cultes comme PPD.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on la connaissait, députée, maintenant elle est directrice d'école, c'est Marion Maréchal qui a ouvert donc cette école, hein, baptisée Institut des sciences sociales, économiques et politiques, c'est à Lyon, ça devrait ouvrir ses portes au mois de septembre. Alors c'est vrai que ce qui est assez étonnant, Alexis Poulain, c'est pour faire de la politique aujourd'hui, il faut mieux vraiment être hors parti alors ?
Oui, enfin les partis, c'est quelque chose de compliqué, de démocratique, il faut travailler, alors qu'un mouvement, bah voilà, il y a une personnalité, et puis autour, on agrège, c'est le mouvement 5 étoiles, c'est la Lega aussi que Salvini a réussi à emmener vers ça, c'est
quand
la France insoumise.
Quand métapolitique, ça veut dire quoi en fait? Métapolitique.
Métapolitique, ça veut dire infuser des idées au sein de la société pour qu'après, finalement, tout le monde soit d'accord. C'est ce truc qu'En Marche aime beaucoup faire aussi, en disant on veut savoir ce que veulent les Français. Mais cette idée-là de Marion Le Pen, d'avoir cette école, déjà, d'où vient l'argent? Une question qui devrait être posée, mais d'où vient l'argent pour faire une chose pareille? Moi, ce que j'ai peur, c'est que ce soit.
Il y a beaucoup de questions qui sont pas posées. Le fait que ce soit. Qui sont les professeurs?
Voilà, qui sont les professeurs?
Alors,
on a parlé de Steve
donner.
Bannon, mais vraiment, ce que je vois d'elle, ouais. C'est que c'est une marionnette de l'alt-right américaine. J'ai l'impression qu'elle a fait son tour des popotes, elle est allée voir l'argent, elle est allée voir Mercer, Bannon, etc. Bannon qui a un plan, hein, qui a dit il va falloir militariser justement cette métapolitique, la prise des cerveaux européens justement sur le nationalisme, sur la xénophobie, lorsqu'il était en France et puis il a fait le tour aussi en Italie, etc.
Il est invité par le Front National.
Et clairement, cette école, elle est là pour ça. Et je pense qu'il faut savoir d'où vient l'argent. Maintenant, il y a une enquête à avoir en disant mais qui est derrière Marion Le Pen et à quel dessein? Alors évidemment, c'est 2022, mais on va pas se faire avoir par des oligarques américains comme Mercer pour un truc qui je ne crois pas qu'elle aura de programme politique concret.
Oui,
elle aura
sûr.
Des idées évidemment, des trucs comme ça, mais clairement cette ambition là qu'elle a, qui est surdimensionnée, il va falloir dès à présent y faire très attention.
Alors Étienne Girard, ça arrive cette ouverture, cette inauguration d'école le même jour où un sondage Orange La Tribune donne Marion Maréchal plus populaire auprès des sympathisants de droite que Laurent Wauquiez. Ça veut dire véritablement que son avenir, il est là, ça veut dire entre ce moment-là, entre l'extrême droite et les Républicains.
Attention, hein, parce qu'à une époque, le président de la République devait s'appeler Dominique Strauss-Kahn. Mmh. Donc là, pour Marion Le Pen...
Marion Maréchal, on va dire. Ça va être
possible. Marion Maréchal, voilà. Marion Maréchal Le Pen.
Marion Maréchal.
Elle est extrêmement populaire parce qu'elle a quitté la politique.
Oui.
Elle ne fait aucun débat politique. Elle n'est pas mise en difficulté. Donc là, elle plane au-dessus de la vie politique, ce qui lui permet, parce que la nature a horreur du vide, de prendre une certaine place. Mais il n'y a rien de solide dans tout ça.
Oui.
Le jour où elle reviendra en politique, on l'a vu à chaque fois que quelqu'un a fait ça, elle perdra énormément de points dans la semaine suivante dans les sondages. Donc aujourd'hui, elle a tout à prouver. Faut pas oublier qu'elle a que 28 ans, qu'elle a fait qu'un mandat de député d'opposition sans proposer grand chose. Et donc, on est loin de voir dans cette initiative celle de la future présidente de la République.
Oui, bien sûr, même sa famille.
Elle existe aussi parce que autour d'elle, plus personne n'est. Enfin, il y a plus d'autres personnes qui existent. Il y a peu de figures de l'opposition au président actuel qui se dégagent. Donc là où sa tante Marine Le Pen, on ne l'entend plus beaucoup. Là où la droite se déchire, elle apparaît comme ça. Elle, en tout cas, ses idées sont claires.
Mmh.
Voilà, elles ont le mérite d'être claires. On n'est pas forcément d'accord avec, mais en tout cas, elles ont le mérite d'être claires. Du coup, ça lui permet d'émerger comme ça.
Anne-Sophie Beauvais, on voit, c'est vrai que récemment, il y a eu, vous savez, une indiscrétion du point. C'était sur un déjeuner entre Michel Houellebecq et Laurent Wauquiez. Et Michel Houellebecq a dit que Laurent Wauquiez était omnibulé par Marion Maréchal. Et donc, ça veut dire que il y a, c'est comme une entreprise, c'est-à-dire qu'on a peur de se faire voler ses clients, en fait.
Oui, je pense qu'effectivement, l'intérêt que suscite Marion Maréchal vient, vous venez de le dire, profondément d'une forme d'insatisfaction d'une offre politique à droite et à l'extrême droite. Marine Le Pen n'a pas convaincu sur sa capacité à rebondir après la présidentielle. Et Laurent Wauquiez a du mal, il est vrai, à enclencher une dynamique au sein des Républicains. Donc, elle est un peu à la convergence entre les Républicains et entre l'extrême droite. Maintenant, être à la connexion, à la convergence, je sais pas très bien comment dire, de ces deux parties-là, est-ce que ça va suffire pour emporter le morceau? Il reste quand même, de mon point de vue, que Marion Maréchal, elle vient quand même du Front National, donc je pense qu'elle conserve cette étiquette un peu qui l'ostracise un petit peu. Je suis pas sûre qu'elle réussisse encore à transformer complètement et à venir au cœur d'un système politique fréquentable, on va dire les choses simplement. Il y a encore une étape à franchir.
Et on se souvient d'elle surtout un peu plus, on va dire un peu plus dur que sa tante, parce qu'au moment de la manif pour tous, Marine Le Pen n'était pas descendue dans la rue. Madame Marion Maréchal. Donc elle travaille aussi ces réseaux-là.
Elle travaille les réseaux de la droite ultra-réactionnaire, ceux de Bannon, enfin ceux de Breitbart qu'ont fait Trump. C'est vraiment le populisme réactionnaire en disant voilà, c'est je crois pas au changement climatique, un papa, une maman, etc. Et ça, effectivement, c'est un magnifique produit marketing, en fait.
Il y a
rien derrière, mais
le
package est là. Mais c'est effectivement un produit marketing. C'est certainement pas un parti. Et derrière, il y a une ambition démesurée. On l'entend parler. Enfin, son école, allons-y. Il n'y a aucun diplôme reconnu et elle pense former des nouvelles élites de la nation.
Ce qui est intéressant, c'est de voir tout un écosystème quand même, effectivement, qui se met en place autour d'elle. Vous avez un magazine, L'Incorrect, qui vient l'accompagner et la soutenir. Donc, il est vrai que voilà, il y a quand même une école. On investit les médias, on investit l'éducation et on crée une espèce d'écosystème pour porter la marque Marion Maréchal. Et d'ailleurs, c'est une marque qui a changé puisque c'est plus Marion Le Pen, c'est Marion Maréchal.
Donc là, vous êtes en train de me dire qu'on aura l'occasion d'en reparler, sûrement, j'imagine, nos informés de France Info. Allez, dans quelques minutes, on parlera de glyphosate, mais également de Mélania Trump. Voilà la suite du programme des informés de France Info.
À l'emploi, un livre de Philippe Duport avec France Info.
J'ai sélectionné pour vous 60 outils pour trouver du boulot comme un pro. Des sites, des applis, des plateformes, des réseaux, la plupart sont gratuits. Ils vont accélérer votre recherche d'emploi, vous faciliter la tâche, parce que chercher du travail, c'est un vrai travail à plein temps. Alors, autant se doter des outils les plus modernes pour être prêt à l'emploi.
La boîte à outils, indispensable pour les chercheurs d'emploi. Prêt à l'emploi de Philippe Duport, un livre coédité par France Info. France Info Météo avec Aramis Auto, le spécialiste de la vente de voitures sur Internet. 2000 modèles et 30 marques à découvrir sur aramisauto.com et dans les agences Aramis Auto.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Soleil et température en hausse pour le week-end. Ce sera encore frais demain matin, 5 à 15 degrés jusqu'à 21 près de la Méditerranée. L'après-midi, ça remontera doucement et il fera 19 à 25 degrés au nord, 25 à 31 au sud. Côté ciel, du bleu, quelques nuages bien inoffensifs près des frontières du nord. Parfois une averse sur le sud des Alpes, la Côte d'Azur et la Corse. Même chose sur les Pyrénées l'après-midi. Le Mistral ira jusqu'à 60 km à l'heure. Dimanche, ce sera bien nuageux sur l'est du pays le matin. On retrouvera des éclairs l'après-midi. Ce sera très ensoleillé en allant vers l'océan. Il fera encore un peu plus chaud, 21 à 26 degrés au nord et 26 à 31 au sud.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Augustin Rivet, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. C'est la ministre de la Santé qui l'a confirmé hier. Le gouvernement veut revoir le principe de la pension de réversion, un dispositif qui jusqu'ici permet aux veufs et aux veuves de toucher un pourcentage de la retraite de leur conjoint disparu. Sarah Lemoine, la réforme des retraites est plus vaste, elle sera votée l'an prochain. Mais ce point en particulier est déjà explosif.
La pension de réversion, c'est avant tout une affaire de femme. Un filet de sécurité conçu à l'origine pour protéger financièrement l'épouse après le décès de son mari. Le premier dispositif, créé en 1853 sous Napoléon, concernait d'ailleurs exclusivement les veuves de fonctionnaires. Aujourd'hui, 4 400 000 personnes touchent une pension de réversion, c'est-à-dire une partie du montant de la retraite de leur conjoint décédé. 87% des bénéficiaires sont des femmes et une partie d'entre elles n'ont pas d'autres revenus. Un filet que le gouvernement n'entend pas supprimer mais remettre à plat. Raison invoquée par la ministre de la Santé, les règles d'attribution et de calcul de la réversion ne sont pas les mêmes selon les différents régimes de retraite. Dans certains cas, le conjoint survivant peut y prétendre dès 55 ans, dans d'autres, il doit attendre 65 ans. La prise en compte de la durée du mariage, le pourcentage de la réversion et les conditions de ressources fluctuent également. Il faut donc harmoniser, dit l'exécutif, mais pas tirer vers le bas, préviennent déjà les syndicats.
Sarah Lemoine, les ministres de l'Agriculture et de la Transition écologique étaient réunis aujourd'hui pour présenter un plan de sortie du glyphosate d'ici 3 ans. Un groupe de travail devra rendre des propositions dans les 3 semaines pour le développement de méthodes alternatives à cet herbicide jugé cancérigène. Des actions d'accompagnement sont prévues pour aider les agriculteurs. 9 TGV sur 10 circuleront demain en France. Pas de changement à ce niveau-là par rapport à aujourd'hui. un samedi de grève qui se traduira également par un TER sur deux et un train intercité sur deux. 15 communes de l'île de la Réunion concernées par un arrêté de catastrophe naturelle, elles avaient été balayées par une tempête tropicale fin avril, la tempête Fakir, qui avait fait 2 morts. Une trentaine de tombes vandalisées hier soir dans un cimetière de Marigny-les-Usagers, c'est dans le Loiret. Information France Bleu Orléans, plaque et vase cassés. Et 4 personnes ont été entendues par les gendarmes aujourd'hui dans cette affaire. Surprise, il s'agit de 4 enfants de 7 à 9 ans. Les constructeurs automobiles européens menacés par Donald Trump, la Maison Blanche envisage d'augmenter de 20% les taxes sur les importations de ses voitures aux États-Unis. Réponse aux hausses d'impôts appliquées depuis la nuit dernière dans l'Union européenne sur plusieurs produits américains. On peut citer des motos ou des jeans. La maire de Turin sera jugée pour homicide et blessures involontaires, de même que le commissaire de police de la ville qui était en fonction le 3 juin de l'an dernier. Ce soir-là, la Juventus disputait la finale de la Ligue des champions de football et une bousculade de supporters avait fait 1 mort et 1500 blessés. Bousculade suite à la fausse rumeur d'une alerte à la bombe. La Serbie contre la Suisse en ce moment en Coupe du monde de football. Une demi-heure de jeu et c'est la Serbie qui mène 1-0. Dans le même groupe, c'est déjà terminé pour le Costa Rica, battu tout à l'heure 2-0 par le Brésil. Et puis dans le groupe D, le Nigeria a redonné de l'espoir à l'Argentine en battant l'Islande 2-0. Le festival Solidays fête sa 20e édition. Des bénéfices destinés à la lutte contre le sida. Ça dure jusqu'à dimanche. Vous écoutez France Info, la suite des informés jusqu'à 21h. Jean-Mathieu Pernin.
20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, à quelques minutes de l'avachissement sur leur canapé, appelé aussi par les gens civilisés week-end, ils sont présents aux informés de France Info, on les remercie. Et ce soir, autour de la table, nous trouvons Madame Mostafavi de Courrier International, également le journaliste européen Alexis Poulain, Étienne Girard de Marianne et Anne-Sophie Beauvais, directrice générale de l'Association des anciens élèves de Sciences Po. C'est une image... Alors autant vous dire, assez saisissante, qui ne nous a pas quitté de la journée. Vous savez, parfois vous avez des images quand vous lisez quelque chose et c'est dans votre tête. Stéphane Travert, voilà, ministre de l'Agriculture, en short et avec une casquette, à 4 pattes dans un champ d'endives. Voilà, parce que le ministre de l'Agriculture a raconté qu'il pratiquait, quand il était jeune, l'arrachage de mauvaises herbes à la main. Voilà, donc je sais pas pourquoi ça est resté. Une manière pour lui de dire que l'on peut se débarrasser de désherbants chimiques, mais ça va coûter plus cher en main d'œuvre. La preuve, lui, il faisait ça quand il était plus jeune. Aujourd'hui, Stéphane Travert et Nicolas Hulot ont lancé une task force, carrément, pour anticiper la sortie du glyphosate. Un groupe de réflexion qui réunit différents acteurs de la filière ayant pour but la disparition de l'herbicide controversé d'ici 3 ans. C'est une promesse d'Emmanuel Macron. On se souvient du psychodrame de ne pas avoir inscrit l'interdiction du glyphosate dans la loi en mai dernier. Alors, est-ce que cette task force fera-t-elle avancer les choses? Avant ça, il y aurait quand même quelques conditions. Christiane Lambert, elle est présidente de la FNSEA.
Les agriculteurs ne pourront pas accepter des engagements sans compensation. Lorsque ça coûte, il faut partager. L'environnement est un bien public, la santé est un bien public. C'est donc l'ensemble de la société qui doit contribuer. C'est une attente sociétale, oui c'est vrai. C'est pas seulement une lubie ou une pression médiatique, il y a une attente sociétale. Ça a un prix, payons tous.
Voilà, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. Étienne Girard, quand on voit que dans cette task force, alors déjà le mot est assez dur, il y a des pros et des anti-glyphosates, on se demande ce qui peut vraiment en sortir de ça, puisque le ministre lui-même d'Agriculture est contre l'inscription dans la loi.
Bah absolument, et je dois avouer que je suis un peu effaré d'entendre la présidente de la FNSEA tenir un tel langage. Quand un engrais est cancérigène, il n'y a pas de compensation à donner.
Mais pour eux, il n'est pas cancérigène.
Enfin, vous savez, comme sauf qu'il a été reconnu cancérigène. Ouais. Et l'Union européenne le reconnaît comme cancérigène, la France le reconnaît comme cancérigène. Donc on peut établir qu'il l'est. Il n'y a pas de compensation à donner pour l'interdire. Est-ce qu'on va pouvoir l'interdire sans l'inscrire dans la loi? Je dois avouer que je suis extrêmement sceptique à cette idée-là. Moi, si on me dit que je suis pas obligé de payer mes impôts, je sais pas si sur la base du volontariat, je vais les payer.
Ouais, bien sûr. Voilà,
c'est un théâtre d'ombre, ce débat-là, dans lequel il me semble que le gouvernement n'est pas très habile, avec des explications tout sauf limpides. On les sent un peu dans la main des agriculteurs. Ouais, ils ont du mal à s'en sortir.
Alors, la preuve aussi, Mme Mostafavi, c'est dans Le Parisien aujourd'hui. Le ministre de l'Agriculture explique que cette réunion Alors aujourd'hui, c'est tenu au ministère parce que, je cite, c'est dans ce ministère qu'on discute de ce produit, ce sont les agriculteurs qui utilisent le glyphosate, personne d'autre. En gros, c'est un petit tacle envers Nicolas Hulot, qui lui est pour l'interdiction du glyphosate. D'un coup, les voir là, tous les deux ensemble, ça y est, c'est terminé, tout va bien ?
Ça y est, tout va bien. Je pense qu'on est quand même dans une séquence où ils essayent de faire, enfin, le gouvernement met en avant que si l'écologie c'est important, si l'environnement après l'inscription dans la Constitution. De l'écologie, avec, de dire oui, l'agriculture peut se rénover et travailler main dans la main avec le ministre de l'écologie. Évidemment, ça me semble pas possible. Ça me semble pas possible parce que de toute façon, les logiques sont très différentes. S'il y avait un vrai engagement, il faudrait revoir toute la question agricole et dire on change tout. On change vraiment. Déjà, quand on voit à quel point c'est difficile d'inscrire un seul herbicide dans de l'interdiction d'un seul herbicide, on se dit mais on peut pas y arriver.
Anne-Sophie Beauvais, c'est vrai que cette histoire quand même est assez étonnante parce que c'est une promesse d'Emmanuel Macron. Depuis le non-inscription dans la loi, on sent bien qu'il y a un problème au gouvernement autour du glyphosate tout de même.
Oui, c'est sûr. Et est-ce que c'est possible, effectivement, la logique des agriculteurs, la logique environnementale, on espère en tout cas qu'une solution peut se trouver. Ce que j'entends simplement de la part du ministre de l'Agriculture, c'est qu'il ne souhaite pas que la charge de l'interdiction de ce produit repose uniquement sur les agriculteurs. Parce que de ce que j'ai compris du problème...
C'est les plus gros consommateurs de ce produit.
C'est les plus gros consommateurs. Et si vous l'enlevez, ça veut dire que vous devez avoir
une
alternative mécanique, ça veut dire de la main d'œuvre, ça veut dire des outils supplémentaires. Il dit simplement il faut que toute cette charge ne repose pas uniquement sur mes agriculteurs. Mais voyons peut-être l'aspect positif de cette image, c'est-à-dire deux ministres assemblés sur un perron qui essayent quand même de s'entendre.
Et qui ne s'aiment pas depuis le début quand même du
quinquennat. Oui, ça a l'air de se réchauffer un tout petit peu aujourd'hui quand même. Et puis, malgré tout, le souci environnemental, vous venez de l'évoquer, a été quand même placé au cœur de la Constitution.
C'est ça, on va en parler là dans un instant.
Non, mais c'est pas,
bien sûr,
c'est pas
bien
rien.
Sûr. Non,
parce qu'en plus, on décide de le mettre dans l'article 1 qui est quand même... Alors, mon voisin est très sceptique sur le sujet, mais quand même, c'est le mettre cet enjeu environnemental dans l'article 1 de la Constitution, ça affirme le caractère assez fondamental de ces questions, puisque c'est dans cet article 1 quand même qu'apparaissent beaucoup de questions liées à des valeurs fondatrices de notre République. Et puis, Hulot reconnaît lui-même comme quoi il devient aussi un petit peu politique, puisque, je le cite, il dit « ça ne va jamais assez vite, compte tenu de l'urgence climatique, mais bon, on n'est pas dans un conte de fées, il faut tenir compte d'un certain nombre de réalités. » Voilà, il a trouvé qu'il a obtenu un certain nombre d'avancées. Alors, donc, je vois la bouteille à moitié remplie plutôt qu'à moitié vide.
À moitié vide, Alexis Poulain.
C'est la bouteille de Roundup à moitié vide. Ouais, c'est ça. c'est ça, c'est une image, c'est la portée des choses. Les gestes écologiques, on en est loin. Enfin, si on veut voir... l'image globale, l'Europe fait plus justement en matière d'écologie, mais ça va pas assez vite. Là, on voit le glyphosate, on en parle effectivement. Ça fait longtemps que les gens ont envie de manger des choses propres dans leur assiette, ils en ont marre des perturbateurs endocriniens, des choses comme ça. Ça fait longtemps qu'on essaye de faire des choses. Finalement, dans la plus grande indifférence, Bayer-Monsanto s'est fait. Maintenant, ça s'appelle Bayer. L'autorité de la concurrence européenne a signé. L'autorité de la concurrence américaine aussi a signé. On a là à faire un monstre de l'agro-business, de l'agrochimie, qui va faire n'importe quoi. Qui va être... Aujourd'hui, l'agrochimie, c'est quatre groupes. Vous avez les Chinois, avec ChemChina. Vous avez les Américains, avec Dow. Et vous avez maintenant Bayer, les Européens. Ils sont trois. Et ils vont faire n'importe quoi. Et il n'y aura pas de régulation, il n'y aura pas de loi. Alors, on peut rigoler sur le glyphosate, le Roundup, mais la réalité, elle est là. C'est que cette filière de l'agro-industrie, elle doit être remise en cause. Il faut des cycles courts maintenant, il faut de l'agriculture biologique.
Mais apparemment, c'est pas le cas du ministre. Le ministre,
bien sûr que non. Parce que tout le monde est prisonnier d'un système de financiarisation de l'agriculture. On parle maintenant de drones, on va faire bien sûr de l'agriculture connectée, etc. Avec ces produits-là phytosanitaires, avec toujours plus d'accords commerciaux, c'est-à-dire qu'on va aller importer du bœuf australien, on va aller porter des betteraves américaines, tout ça n'a aucun sens.
Alors on va essayer d'en trouver un sens justement dans un instant. L'info à 20h40, Mélodie Pépin.
La guerre commerciale est déclarée entre les États-Unis et l'Union européenne. L'UE taxe depuis aujourd'hui 182 produits américains importés. La réplique de Donald Trump n'a pas tardé. Il menace d'imposer des droits de douane de 20% sur les voitures européennes après l'acier et l'aluminium. En France, la pension de réversion ne sera pas supprimée. La ministre de la Santé le promet, mais les règles d'attribution vont être harmonisées dans le cadre de la réforme des retraites. Les syndicats craignent un nivellement par le bas alors que plus de 4 millions de personnes bénéficient de cette pension, en grande majorité des femmes. Les parents de Naomi Muzenga réclament l'ouverture d'une information judiciaire 6 mois après la mort de leur fille de 22 ans, dont l'appel au SAMU n'avait pas été pris au sérieux. La famille et leur avocat veulent pouvoir remonter la chaîne des responsabilités et qu'il y ait des mises en examen dans ce dossier. Les prévisions de trafic SNCF demain pour cette 17e séquence de grève, comme aujourd'hui comptait 90% de TGV. En revanche, en région, seulement un TER sur deux, pareil pour les intercités. En Ile-de-France, 3 Transiliens sur 5 en moyenne. Et puis au mondial de football, les larmes de Neymar inquiètent tout un pays, le Brésil, pourtant victorieux aujourd'hui face au Costa Rica, 2-0. Neymar a inscrit le dernier but de la rencontre à l'issue d'un match poussif. Autre résultat, le Nigeria a battu l'Islande 2-0. Et puis en ce moment, Serbie-Suisse, 1-0 pour les Serbes.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors c'est un peu l'image du jour écologique, hein, voilà, on va dire ça comme ça. C'est ensemble sur le perron du ministère de l'Agriculture, le ministre Stéphane Travert avec Nicolas Hulot. Ça y est, ils sont super copains maintenant parce qu'ils vont travailler ensemble sur le glyphosate. Et cette semaine, elle est plutôt bien pour Nicolas Hulot puisqu'on a appris que la protection de l'environnement serait inscrite dans l'article 1 de la Constitution. Et ça, Étienne Gérard, ça vous laisse totalement froid, en fait, j'ai l'impression.
Ah, je suis consterné par cette initiative.
Et pourquoi ? Ça paraît en effet important.
C'est la mesure d'enfumage absolu.
Et pourquoi ?
Parce que en 2005, on a intégré un texte dans la Constitution qui s'appelle la Charte de l'environnement. Et la Charte de l'environnement, elle dit exactement ce qu'on veut inscrire aujourd'hui à l'article 1er de la Constitution. C'est-à-dire que chacun a le droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé, ouais. Etc. Cette mesure-là, donc inscrire dans l'article 1er la protection de l'environnement, elle a qu'une seule visée, qu'un seul intérêt, c'est empêcher Nicolas Hulot de sortir du gouvernement et lui laisser la tête haute, lui faire croire qu'il a gagné un combat. Mais par rapport, juste la sortie du glyphosate dans la loi, c'était plus important, ça avait un plus grand intérêt juridique que ce pourquoi on va se payer des mots dans les semaines à venir, c'est-à-dire cette mesure absolument symbolique.
Oui, Anne-Sophie Beauvais, vous n'êtes pas... Pas trop d'accord avec ça, vous
je
dites.
Je sais pas. Moi, je me suis toujours posé des questions sur la volonté de tout faire rentrer dans la loi. est-ce que c'est franchement nécessaire de tout faire rentrer dans la loi là? Mais l'avenir vous donnera peut-être raison. Mais en tout cas, on peut peut-être laisser une chance quand même à ce que ce problème se règle en dehors de la loi. Et c'est possible. Je dis juste que c'est possible. Alors, je suis d'accord. La charte de l'environnement, effectivement. Mais des valeurs symboliques, parfois, ça fait du bien. Et je le répète, cet article 1, c'est quand même les valeurs fondatrices de notre République, c'est l'égalité, c'est la laïcité, c'est l'indivisibilité. Donc voilà, et puis il y a d'autres avancées peut-être en matière d'environnement qui ont été aussi obtenues.
Alexis Poulain-Mathieu Orphelin, qui est un proche de Nicolas Hulot, hein, qui est un député de La République En Marche, lui disait, voilà, maintenant, si c'est inscrit dans l'article 1, ça nous permettra véritablement de faire pression quand il y a des problèmes avec des entreprises.
Les 300 000 tonnes de total pour faire de l'agrocarburant avec de l'huile de palme, on va pouvoir dire c'est fini.
Peut-être, je ne sais pas.
Bien sûr. Non, alors, oui, c'est des mots.
Non, parce que les juges pourront s'appuyer quand même là-dessus.
Imaginez, bien sûr, il y a ces mots-là d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a une réalité du business qui est extrêmement polluant, qui est... L'agrocarburant, c'est un problème sur l'huile de palme. Enfin, on ne va pas se voiler la face. Même les agriculteurs, d'ailleurs, ils sont montés au créneau pour bloquer les raffineries à ce sujet-là. Donc, faire encore de ce type d'utilisation de la terre qui est maintenant dans un état catastrophique de substrat, etc. La question, elle est beaucoup plus large. On va parler de la PAC.
La Constitution, c'est quand même important. C'est ce qui régit quand même aujourd'hui notre République. Si on a, dans l'article 1er, le symbole est fort, non?
C'est un symbole. C'est un symbole. Il faut quand même se dire que, à un moment donné, on a l'impression que l'Union européenne est plus en pointe que la France sur ces questions. C'est que quelque part, il doit y avoir un problème, puisque la France est censée porter l'écologie, elle l'a portée au niveau mondial. On met our planet great again, our dear president. Non, mais vraiment, il s'est affiché comme le parangon du climat dans le monde entier. Mais là, c'est maintenant qu'il faut faire des choses. Il faut arrêter de parler. Il faut faire Au moins un ou deux trucs.
Bon, en tout cas, voilà, il y a déjà une chose, voilà, une chose même symbolique, en tout cas, peut-être, ça sera inscrit au premier article 1, en tout cas, de la Constitution française, donc la protection de l'environnement. Allez, on va partir de l'autre côté de l'Atlantique pour terminer cette émission, parce que c'est vrai qu'avec ses grosses lunettes, elle ressemble à la méchante de la série V, vous savez, où des extraterrestres lézards, sous apparence humaine, envahissent la Terre. Mais apparemment, Melania Trump s'est trouvé un autre rôle. Et si c'était celle de l'opposant numéro 1 à Donald Trump. Toute cette semaine, le monde entier s'est ému de ces enfants des sans-papiers mexicains séparés de leurs parents et mis en cage. La première dame et les ex, d'ailleurs, première dame, ont dénoncé ce traitement. Le président américain, lui aussi, n'aimait pas trop voir des enfants séparés, mais il a tout de même fait marche arrière en signant un décret. Hier, alors que Melania Trump s'envolait pour visiter un camp, justement, de rétention pour migrants dans le Texas, elle est apparue avec un manteau kaki sur lequel figurait cette inscription « J'en ai vraiment rien à faire, et vous ?» Intriguant, hein. Eh bien, à qui s'adressait ce message? Alors, nul ne le sait vraiment. Alors, certains animateurs de Late Show tentent d'apporter une réponse à cette question. C'est le cas de Stephen Colbert sur CBS.
C'est souvent le rôle d'une première dame. Elle va dans une région troublée, elle rencontre des enfants, elle montre qu'on en a quelque chose à faire. C'est impossible à rater. Eh bien, devinez quoi?
How many people would get fired for this at a normal White House?
Je me demande combien de personnes vont être virées à la Maison-Blanche. Une, cinq, tout le monde, parce qu'au milieu d'un scandale tellement fort qu'il a fait reculer le président, ses conseillers l'ont laissé se montrer avec ce message « Je n'en ai rien à foutre, et vous ?» Eh bien, pour info, nous, non, on n'en a pas rien à foutre.
Voilà, Stephen Colbert hier sur CBS. C'est étonnant quand même cette histoire, Sophie Beauvais. Là, on est quand même dans un... Il y a un mélange de tout. On est dans des drames humains avec des migrants mexicains, plus peut-être une affaire de coupe par-dessus. Voilà, c'est un peu de la politique telenovela. Enfin, c'est assez étonnant, non? Ce qu'on est en train de vivre.
Oui. Et il ne faut pas sous-estimer effectivement les affaires de cœur en politique. Parfois, on aimerait bien sonder les reins et les cœurs de nos couples présidentiels. Ça nous aiderait beaucoup. Moi, je ne sais pas, vu de loin, je me dis qu'il y a une certitude, c'est que ce n'est pas un hasard, cette veste. Je ne sais pas du tout ce que ça signifie, quel était le message et à qui elle voulait l'adresser, mais en tous les cas, vu l'habileté en matière de communication, vu comme tout est pensé dans ce pays qu'est l'Amérique, je me dis que cette veste n'est pas... Donc il y a vraiment un message. Maintenant, à qui il s'adresse, je ne sais pas. Et la question que je me pose, c'est est-ce que c'est le couple Trump s'était un peu mis d'accord avec, d'un côté, le rôle protecteur de la femme, de la première dame, et puis le côté ordre, sévérité de Trump, ou est-ce qu'elle a fait ça en voulant s'affranchir d'un coup d'un seul de son mari? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse.
C'est pas la première fois, en tout cas, puisque déjà sur les armes, elle avait signalé. Mais justement, Donald Trump a répondu par un tweet, ce message sur la veste de sa femme, et voilà ce qu'il a répondu. Donald Trump, on va le voir dans un instant. Je m'en fous vraiment, et vous? Eh bien, tout ça est de la faute des médias, car Melania est contre les fake news, et ces médias sont méchants, etc. Voilà, on a ça. Donc, Amna Mostafavi, est-ce qu'on est vraiment là dans une intrigue entre la première dame et le président? Est-ce qu'elle-même est opposante, ou tout ça aussi peut être de la politique?
Tout ça, c'est de la politique, à mon avis, c'est de la belle communication, parce que maintenant, tout le monde parle de la veste, et plus personne parle des enfants migrants qui sont, excusez-moi de vous corriger, non pas du Mexique, la plupart du temps, mais hondurien, ou salvadorien, la plupart du temps. Non, mais c'est important pour dire que c'est une immigration qui vient de pays où il y a des vraies difficultés, qui s'est déplacée au fin fond de l'Amérique centrale parce que, justement, l'Amérique ne fait rien, comme l'Europe plus loin, pour gérer cette question à long terme. Et donc, tout le monde a déplacé la conversation. Pour moi, c'est une séquence de communication qui fait qu'elle a réussi à déplacer la conversation.
Allez, on va continuer en parler dans un instant. L'info à 20h50, Mélodie Pépin.
Le parquet de Bobigny ouvre une enquête après le signalement d'une vidéo où un élève autiste est moqué, humilié par des adultes. 4 surveillants de ce collège d'Aulnay-sous-Bois ont été suspendus. Une enquête administrative est déjà ouverte. Le scepticisme d'Angela Merkel sur la question de l'immigration. La chancelière allemande exclut que des solutions puissent être trouvées au sommet de l'UE des 28 la semaine prochaine. Elle mise plutôt sur des accords bilatéraux ou multilatéraux lors d'un mini-sommet sur le sujet prévu dimanche à Bruxelles, mais boycotté par certains pays européens. Une nouvelle école pour former les élites françaises à la rentrée à Lyon, et c'est Marion Maréchal Le Pen qui va la diriger. Elle a présenté aujourd'hui l'ICEP, école privée qui, selon elle, défend les valeurs d'excellence et d'enracinement. Marion Maréchal Le Pen assure ne pas vouloir faire de la politique et que les profs de gauche sont acceptés. À Paris, c'est la fin des autolibes, mais le début des trottilibes. Il va falloir vous y faire. Voici la patinette électrique en libre service et sans borne, lancée aujourd'hui par le groupe américain Lime. Une centaine mise en circulation pour commencer, comptez 15 centimes d'euros la minute. En trottilib, en vélib ou en bus, beaucoup se sont donné rendez-vous au Solidays ce soir. Top départ de la 20e édition du festival engagé dans la lutte contre le sida. 200 000 festivaliers attendus à l'hippodrome de Longchamp jusqu'à dimanche. Depuis sa création, Solidays a récolté plus de 25 millions d'euros en faveur de la lutte contre le sida.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons du cas Melania Trump, hein, la première dame américaine justement aujourd'hui qui a visité, vous savez, ce camp de migrants au Texas avec cette veste en disant j'en ai rien à faire, mais à qui ça s'adressait. Mais le message derrière aussi, il est de s'intéresser aux migrants. Et c'est vrai, tout de même, Alexis Poulain, ces images sont peut-être ont vraiment marqué cette semaine. Hein, c'est peut-être les pires images de la semaine. Et il y avait comme un écho, c'est-à-dire entre eux, de chaque côté de l'Atlantique, puisque Donald Trump en a profité pour dire regardez, moi je fais ça pour éviter ce qui se passe en Allemagne avec des fausses informations, disons, la délinquance avait augmenté. Mais on sent bien que là, lui, ce qu'il a mis en avant, c'est la tolérance zéro. Ça veut dire qu'il peut séduire avec ce discours aussi d'autres personnes, d'autres chefs d'État sur
évidemment,
ce côté tolérance zéro.
Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a Trump qui n'est pas un président américain comme les autres. On continue de le traiter comme si c'était un président comme les autres. Il utilise la xénophobie comme un discours de campagne. Il est en campagne permanente auprès de sa base. Et bien sûr qu'il donne des idées ou tout du moins une légitimité à un Salvini qui a été traité de bouffon par Saviano.
Alors Salvini, voilà, ministre de l'Intérieur italien,
et qui utilise sa tribune également. Il est ministre de l'Intérieur. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il fait de la politique permanente. Il est dans la posture permanente. Il va utiliser ça pour faire rentrer davantage encore ses idées de tolérance zéro, ses idées que les étrangers sont le cœur du problème, ce qui est faux. On voit les chiffres qui baissent sur l'accueil. Et cette rhétorique xénophobe, et c'est pas la lèpre nationaliste le problème. Vraiment, pour moi, c'est la xénophobie qui est en train de monter et qui est une au cœur de cette politique populiste. Il est là le problème. Et Trump valide ça parce qu'on continue de le traiter comme un président comme un autre. Et ben, faut arrêter.
Justement, Étienne Girard, aujourd'hui, Donald Trump... On voyait que c'était plus trop le modèle de certains, notamment en France, Marine Le Pen qui était un peu fatiguée de Donald Trump. Là, de nouveau, maintenant, elle se tourne davantage vers l'Italie. Mais ça reste quand même un modèle, ce qu'il fait en ce moment.
C'est un excellent modèle, puisqu'il a gagné contre toute attente et sans réseau au départ d'ampleur les élections américaines. Il est populaire. Il est relativement populaire depuis qu'il a été élu. Il pourrait même remporter les élections de mi-mandat. Pour tout populiste et tout xénophobe européen, c'est le modèle à suivre. Et faut reconnaître que en Europe, comme aux États-Unis, il y a aujourd'hui une appétence pour ce discours-là, pour ce discours, comme vous dites, de tolérance zéro face à l'immigration.
De stigmatisation.
Et de stigmatisation des migrants, évidemment.
Trump parle des étrangers comme des animaux. Enfin, c'est quand même des mots forts. Enfin, il ne faut pas laisser passer ça. Quand Saviano dit il ne faut pas laisser passer ça, il a raison. Enfin, c'est dingue. On a un oligarque.
Saviano qui est un écrivain, celui qui a écrit Gomorra en Italie. Voilà.
Et on a d'un côté donc, un oligarque fou qui est Trump, qui est là pour son business personnel. Enfin, il va en Corée du Nord pour dire on va faire des hôtels. Tu vas avoir une Trump Tower, c'est super. Et on a Salvini en Italie, qui est l'homme des mafias. Et on les traite comme des gens absolument...
Mais ils sont élus aussi démocratiquement. C'est la volonté aussi, peut-être,
Le rôle des médias, il est là. C'est qu'à un moment, il faut dévoiler la farce, le mensonge que sont ces personnages.
Anne-Sophie Beauvais.
Peut-être juste dire quand même un mot sur la société américaine qui, de ce qu'on en voit, a l'air quand même assez déchirée sur une question comme ça. Mais d'ailleurs, comme elle peut l'être dans d'autres pays, l'électorat américain peut paraître anti-immigration, mais on a vu aussi qu'il a quand même réagi assez fortement à ces images...
C'est vrai qu'il y a l'émotion, derrière, il y a aussi...
Et je pense que cet électorat qui, d'un côté, est anti-immigration, il est aussi travaillé en profondeur par des convictions presque chrétiennes, où la valeur de la famille est quelque chose d'important. Donc, et ce déchirement, en fait, je crois qu'on peut le retrouver dans chacune de nos sociétés aujourd'hui. Il n'y a pas qu'aux États-Unis que ces problèmes se posent comme ça. D'un côté, un discours effectivement assez raide, avec des tolérances zéro, avec des effets dissuasifs qu'on veut enclencher, etc. Et de l'autre, malgré tout, des moments d'humanité qui s'expriment aussi. Ça a été le cas de cette société américaine face à ces images.
Madame Moustapha, rapidement.
Oui, moi, j'ai un petit peu de mal avec ça, puisque quand même, on crée un moment d'humanité après avoir créé un moment de déshumanité totale. Puisque, enfin, il faut quand même se dire que si Trump soudain a reviré, c'est pas pour des raisons humanitaires, c'est pas parce que soudain il aimait ses enfants, c'est aussi pour des raisons électorales, c'est aussi parce que justement il est très aimé par les méthodistes, par exemple, qui ont commencé à protester contre ces séparations, et donc il est toujours quand même dans une démarche complètement cynique, et je pense qu'il faudrait, la vraie révolte aurait été que, je sais pas, il y a eu des manifestations vraiment de masse aux États-Unis pour protester contre ça. Et puis les États-Unis, il faut le rappeler encore une fois, c'est pas comme c'est différent quelque part de l'Europe, c'est quand même un pays d'immigration. C'est le principe même.
C'est le concept.
C'est le concept.
C'est le concept, donc, puisque même la famille de Donald Trump aussi, il a des cousins partout en Europe, rappelons-le. Allez, les informés de France Info, ça doit se terminer. Merci beaucoup, Anne-Sophie Beauvais, d'être passée ce soir. Merci, Alexis Poulain. Amda Mostafavi, la une de Cour internationale.
Tout à fait d'actualité. Évidemment, on parle des migrants, de la honte de l'Europe.
La honte de l'Europe et la une de Marianne.
Oui, c'est ce qui coûte vraiment un pognon dingue en France.
Très bien, à retrouver. Allez, juste avant de finir, c'est un peu l'instant émotion. Voilà, on va dire ça, puisque je voudrais saluer chaleureusement Jean-Vincent Rousseau. Alors Jean-Vincent Rousseau, vous le connaissez pas, c'est un homme qui a une barbe, mais ce n'est pas que ça aussi, hein, Jean-Vincent Rousseau. C'est lui qui, depuis 2 ans, en fait, s'occupe de l'édition visuelle pour les informés sur le canal 27. Il part voguer vers de nouveaux rivages et on ne peut le remercier pour tout son travail réalisé, sa disponibilité, son efficacité. Et même si on l'a un peu rudoyé, on avait un mot de ses parents pour ça, donc c'est passé. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, Jean-Vincent, je tenais à le faire pour ta personnalité. Cette émission aurait vraiment pas été pareille si tu n'avais pas été là. Enfin, un peu quand même, hein, on va le dire. J'étais un petit peu fort pour toi aussi, je le sais. Bon, allez, plein de confettis et d'alcool fort, on se reverra sûrement parce qu'on dit que le monde est vaste. En fait, il est tout petit et tout le monde t'embrasse très fort, les 200 invités, je pense, tous ensemble, voilà, qui sont passés pendant 2 ans.